Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Nous sommes go pour la mise à feu.
H-1. On va sur la Lune.
Vers l'infini et au-delà.
J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'Hannah Arendt sera absente du monde dans lequel va s'écouler le reste de mes jours. J'ai été son amie pendant plus de 50 ans, depuis qu'elle est apparue en 1924, âgée de 18 ans, une étudiante en philosophie de premier semestre parmi les nombreuses autres qui, attirées par le magnétisme de Heidegger, accouraient alors de toute l'Allemagne vers Marbourg. Timide et réservée, avec des traits d'une étonnante beauté, elle apparaissait d'emblée comme quelqu'un d'unique, d'exceptionnel, mais de façon pourtant indéfinissable. L'équipe des Nouveaux Chemins se joint à Hans Jonas pour rendre hommage cette semaine à Hannah Arendt en compagnie de Lucie Tardy, Antoine Ravon, Marianne Chasseur et Colomba Grossi, avec Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la prise de son et Géraldine Mosna-Savoie qui à 10h51 vous donnera envie de lire un livre qui vient de paraître en 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Ceci n'est pas une biographie, c'est la vie de Paul Valéry et c'est aussi un livre de Benoît Peters qui est édité en version poche chez Flammarion.
Rendez-vous à 10h51. Attachez vos ceintures et refermez la porte de votre fusée. Le compte à rebours va commencer. Après la crise de l'autorité hier avec Jean-Claude Poisat, avant la crise de l'éducation avec Anne Dalsuet demain, et Qu'est-ce que la liberté jeudi en compagnie d'Étienne Tassin, pour ce deuxième temps de notre semaine passée en compagnie d'Hannah Arendt, à lire son ouvrage « La crise de la culture », je vous propose aujourd'hui de découvrir l'un des textes de ce recueil qui est le moins lu peut-être, et qui pourtant en dit long sur le rôle que la philosophe attribue aux sciences dans l'avènement du totalitarisme, à travers l'événement sans précédent que constitue l'envoi du premier homme dans l'espace, en 61, et ce qui apparaîtra comme le début d'une longue conquête de l'espace avec les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong en 69, ce qui n'est pas sans poser des problèmes techniques de retransmission.
Voilà, OK pour la télévision.
Armstrong vient de procéder à la dernière vérification du circuit télévision.
Voilà.
L'image est à l'envers.
On demande à Armstrong
retournement
de
voilà,
la position de la caméra.
Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. Jacques Salbert, maintenant, nous écoutons Armstrong.
Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong.
Notre capacité actuelle de conquérir l'univers est due à notre aptitude à manier la nature d'un point de l'univers extérieur à la Terre. Car c'est bien ce que nous faisons quand nous libérons des processus énergétiques qui ne se rencontrent ordinairement que dans le Soleil, ou tentons de déclencher dans une éprouvette les processus d'évolution cosmique, ou construisons des machines pour la production et le contrôle d'énergie inconnue dans la domesticité de la nature terrestre. Sans que pour autant soit occupé réellement le point où Archimède eût souhaité se tenir, Nous avons trouvé une manière d'agir sur la Terre comme si nous disposions de la nature terrestre en dehors d'elle. Du point de vue de l'observateur imaginé par Einstein qui se tient librement en équilibre dans l'espace. Si nous considérons d'un tel point ce qui se passe sur Terre et les diverses activités des hommes, autrement dit, si nous appliquons à nous-mêmes le point d'Archimède, alors ces activités ne nous apparaîtront vraiment comme rien de plus que des comportements objectifs, que nous pourrons étudier avec les mêmes méthodes que celles utilisées pour l'étude du comportement des rats. Vu à distance suffisante, les voitures dans lesquelles nous voyageons et que nous savons être construites par nous auront l'air, ainsi qu'Heisenberg l'a dit une fois, d'être une partie aussi inaliénable de nous-mêmes qu'une coquille d'escargot pour son occupant.
Bonjour Michel Eltchalinov.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Merci.
C'est un plaisir de vous y recevoir pour parler d'Anna Arendt. Vous êtes rédacteur en chef à Philosophie Magazine, avec lequel nous sommes partenaires toute cette semaine sur Anna Arendt, puisque Philosophie Magazine propose ce mois-ci un hors-série consacré à Arendt, dans lequel on trouve de nombreuses contributions tout à fait passionnantes, dont la vôtre, hein, qu'on trouve à la page 126 très exactement, « Et l'homme se métamorphosa en extraterrestre ». Dans cette contribution, vous avez souhaité revenir sur le dernier article qu'on trouve dans la crise de la culture, hein, la conquête de l'espace et la dimension de l'homme, c'est ainsi qu'il s'appelle. Et en effet, cet article est passionnant parce qu'Arendt y montre, on vient d'entendre un extrait de ce texte interprété par la comédienne Lara Brühl, que dans la conquête de l'espace, finalement, l'homme ne s'éloigne pas simplement de la planète Terre, mais aussi de lui-même.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la conquête de l'espace réalise le programme de la modernité, qui a commencé, et ça c'est la méthode d'Arendt, philosophe, qui le permet, qui a commencé 3 siècles plus tôt avec ce qu'on appelle la grande révolution scientifique du XVIIe siècle, où on s'imaginait qu'on regardait la Terre de l'extérieur. Au XVIIe siècle, Galilée se dit, tiens, je suis dans les étoiles, et je vois la Terre, et elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. C'est ce point de vue d'extériorité qui permet à la science de se révolutionner au XVIIe siècle. Il faut attendre 3 siècles pour que cette révolution théorique, dit Arendt, devienne effective. C'est-à-dire que l'homme, pour la première fois, quitte la bonne vieille terre, sa patrie terrestre, comme elle dit parfois, pour se voir lui-même de l'espace. Alors ça s'est passé d'abord en 1957 quand les soviétiques lancent le premier Spoutnik. Alors là, c'est une machine qu'on envoie dans l'espace. Ensuite, en 1961, c'est Youri Gagarine, le premier homme dans l'espace, le premier être humain à se détacher de sa condition terrestre et à voir la Terre de l'extérieur. Et puis évidemment, ce qu'on vient d'écouter comme extrait, 1969, où les téléspectateurs du monde entier découvrent stupéfaits que la planète est bleue. On se rend compte d'ailleurs dans l'extrait que vous nous avez fait.
L'extrait de la première chaîne, hein, donc du 21 juillet 1969.
Oui, on change vraiment de point de vue. Nous, ici sur Terre, on devient gauche, on devient maladroit. La grâce, elle est là-haut maintenant. La grâce, elle est auprès de celui qui pose son pied pour la première fois sur un peu de sable et qui va voir la Terre réellement comme quelque chose d'extérieur à lui. C'est cette révolution à la fois technologique, évidemment, et scientifique, à laquelle assiste Arendt dans les années 60, qu'elle décrit dans ce texte de la crise de la culture, et qui évoque chez elle énormément de questions philosophiques. Elle parle souvent d'inquiétude, elle parle de malaise. C'est-à-dire que cet événement qui est considéré par les téléspectateurs du monde entier comme une victoire de l'humanité, comme quelque chose qui augmente notre dimension humaine, eh bien elle, et en fait là elle est fidèle à son habitude de toujours mettre un grain de sable un peu dans les grands enthousiasmes, elle trouve que ça peut être assez ennuyeux finalement.
Alors disons que le premier pas donc, de l'homme sur la Lune était en 69, la crise de la culture paraît en 64, donc au moment où elle écrit le texte, même s'il il paraît dans la seconde édition, peut-être que l'événement n'a pas forcément eu lieu, mais on peut le considérer comme l'aboutissement de ce qui était déjà en marche au moment où elle écrit ses réflexions. Elle commence l'article comme ceci: la conquête de l'espace par l'homme a-t-elle augmenter ou diminuer sa dimension. La question soulevée s'adresse aux profanes et non aux savants. Elle est inspirée par l'intérêt que l'humaniste porte à l'homme, bien distinct de celui porté par le physicien à la réalité du monde physique. Et cette distinction entre profane et savant va l'accompagner tout au long du texte. Et finalement, c'est cela qui l'intéresse, savoir ce qu'il reste de l'homme dans une circonstance où finalement la réalité semble être accaparée ou récupérée par le savant. Qui se distingue de l'homme ?
C'est ça, c'est-à-dire que cette dichotomie entre le savant et le profane, ou disons le citoyen, elle traverse tout ce texte, elle traverse même la figure du savant lui-même, et c'est ça qui rend ce texte d'abord difficile, avec beaucoup de circonvolutions, de paradoxes, et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, inquiétant. Hannah Arendt est inquiète parce que le savant suit une tâche qui lui est assignée par sa fonction, qui est d'avancer dans le domaine du progrès des sciences et du progrès des technologies. Et le savant, quand il découvre au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, la fission de l'atome, dit Arendt, qu'on peut vraiment scinder la matière, eh bien, même s'il sait que ça peut avoir des conséquences catastrophiques en cas d'explosion nucléaire ou en cas de création de l'arme nucléaire, doit, parce que c'est un savant, parce qu'il est nourri de l'idéologie du progrès, doit continuer. Même si, en tant que citoyen, il est inquiet des résultats que ça peut avoir. Et donc, Hannah Arendt met le doigt sur un des gros problèmes du XXe siècle, mais également d'aujourd'hui, qui est en quelque sorte la dichotomie entre deux sphères, deux réalités, celle du savant, la sphère objective, en progrès permanent des sciences, et puis celle de la pluralité humaine, c'est-à-dire du monde dans lequel on voit les choses que l'on voit, on voit pas forcément la vérité scientifique, on voit des objets, le monde dans lequel on parle un langage courant, qui n'est pas le langage du savant, et c'est cette dichotomie-là que creuse Arendt dans ce texte.
Et alors comment comprendre, parce que essayons de creuser, de même qu'Arendt le fait, cette dichotomie, parce que à la lecture du texte, on ne sait pas trop que penser de la position d'Arendt. Est-ce qu'elle dénonce ce qu'elle craint être une forme de domination du monde par la science ? Est-ce qu'il faut entendre une forme de méfiance exacerbée à l'égard du monde scientifique et technique, disons de la même manière que Heidegger lui-même a formulé des réticences à l'égard de la technique et de la science ? Ou bien est-ce qu'elle décrit un phénomène en imaginant des possibilités pour l'homme de s'accommoder de cet état de fait ?
Alors, comme souvent, Hannah Arendt ici est difficilement classable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas taxer Hannah Arendt d'anti-scientisme ou même d'anti-rationalisme, c'est évident. Hannah Arendt considère que le progrès des sciences fait partie du déploiement du génie de l'humanité. Elle n'est pas en train de regretter un âge pré-scientifique. Là, d'ailleurs, elle se distingue très clairement de Heidegger, son ancien maître. Elle ne veut pas accuser la rationalité occidentale de s'être engagée dès l'Antiquité grecque vers une voie qui va donner naissance à la technique et donc à une forme de catastrophe pour l'humanité. Elle n'est pas heideggerienne, mais elle n'est pas non plus une béate admiratrice du progrès scientifique, c'est-à-dire qu'elle veut examiner dans cet essai politique, parce que n'oublions pas que les essais qui composent la crise de la culture, ils sont nommés exercices de pensée politique, elle veut examiner quel va être l'effet des progrès des sciences sur notre vie humaine, donc notre vie politique. Parce que là, elle est d'accord avec la définition aristotélicienne de l'homme. L'homme est un animal qui parle, et donc l'homme est un animal politique. Et ce qu'elle dit dans ce texte, c'est que ce langage-là, qui permet le dialogue entre nous, qui permet le dissensus, qui permet la politique, n'est pas le langage qu'utilise depuis le XVIIe siècle le savant. Depuis le XVIIe siècle, le savant a remplacé le langage commun par le langage parfait, codifié, universel des mathématiques. Et pour elle, ça change tout. Parce que le savant, empruntant un nouveau langage, eh bien, va avoir un instrument de communication qui ne sera plus celui du profane. Donc, cette sphère de la science va s'éloigner du politique, va s'éloigner de la pluralité, va s'éloigner du dissensus, va s'éloigner des questions éthiques et devenir une forme de bulle à part entière et autonome. C'est ça qui inquiète Arendt. Donc, elle n'est pas anti-scientiste. Par ailleurs, elle ne considère pas que les savants sont animés d'une volonté de puissance. Elle le dit d'ailleurs très clairement dans cet extrait, dans ce texte qui aboutirait à une sorte de gouvernement des experts. Elle n'est pas du tout dans cette théorie suivant laquelle les savants vont devenir les maîtres du monde, hein, qui est assez à la mode dans les années 60. Non, elle, ce qu'elle dit, c'est la science suit un développement qui a sa propre logique. Quels vont être les effets de ce développement sur notre vie politique ? Et c'est là qu'elle s'inquiète.
Ce qui est passionnant, il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont passionnantes dans cet article, le lien entre science et politique, mais on y reviendra un tout petit peu après si vous le voulez bien, parce que là c'est vraiment un enjeu qui est crucial, mais c'est de voir le parallèle qu'on peut effectuer entre d'un côté une découverte scientifique ou le souhait d'Archimède d'avoir un point extérieur à la Terre qui pourrait servir de levier, hein, duquel on pourrait observer la Terre, et de l'autre sur l'autre droite qui serait parallèle à ce constat-là, celui de la transformation du langage ordinaire par le savant qui lui aussi prend de la distance par rapport au réel. Dans les deux cas, ce qu'Hannah Arendt constate et peut-être dénonce, c'est cette scission entre le monde de l'expérience, le monde sensible, et le monde de la vérité scientifique.
Voilà, effectivement, la question du langage est liée à la question qu'on abordait au début de l'émission, c'est-à-dire que l'homme s'éloigne de la Terre. Donc il s'éloigne physiquement de la Terre quand il conquiert l'espace, et il s'éloigne aussi de notre perception terrestre, par nos sens, de ce qui nous entoure. Et c'est ce divorce-là qui préoccupe Arendt. Et ce qui est intéressant, et c'est là où elle est une grande aussi historienne de la philosophie, c'est qu'elle décèle l'origine de ce phénomène, de ce divorce entre notre vie sensible, finalement ce qu'on pourrait appeler le réel, et la vérité scientifique. Ce divorce, il se fait au XVIIe siècle. Il se fait avec très précisément avec Galilée. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, Galilée veut démontrer la véracité de l'hypothèse héliocentriste, suivant laquelle, Copernic l'avait dit quelques décennies plus tôt, ce n'est pas la Terre qui est immobile au centre du système solaire, mais c'est au centre de l'univers même, mais c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du Soleil. Donc Galilée est copernicien. Et donc il veut démontrer que Copernic a raison. Mais pour le démontrer, il faut bien réfuter un argument suivant lequel la Terre, on ne la sent pas tourner. Nous, quand on est sur cette Terre, on sent que c'est un sol immobile, on ne la sent pas tourner. Donc que fait Galilée ?
Il faut aller contre le sens commun.
Il faut aller contre le sens commun. Galilée nous dit, nos sens nous trompent. Effectivement, nous ne sentons pas la Terre tourner sur elle-même en 24 heures, et pourtant, elle le fait. Et il imagine beaucoup d'expériences de pensée dans un navire à vitesse uniforme où il y a des mouvements, où on a l'impression qu'on ne bouge pas à vitesse uniforme, pour démontrer qu'en fait, on peut croire qu'on est au repos alors qu'on bouge. Philosophiquement, ça veut dire une chose fondamentale que Descartes, à la même période au XVIIe siècle, effectue comme Galilée, c'est de dire « les sens nous trompent, la vérité est ailleurs ». Alors, elle n'est pas ailleurs dans un ciel mystique, elle est ailleurs dans l'outil parfait, rigoureux, des mathématiques. Et donc, le geste métaphysique que font Galilée et Descartes au XVIIe siècle et qui est à la source de notre monde d'aujourd'hui, d'après Hannah Arendt, c'est de remplacer ce monde sensible, imparfait, mouvant, mortel, par l'univers absolument rigoureux et parfait des mathématiques et de dire que la vérité de notre monde, elle n'est pas dans l'observation du réel, elle est dans les calculs mathématiques. Et ça, c'est Galilée qui le dit très clairement. Il dit « le monde est écrit en langage mathématique ». Et maintenant, à partir du XVIIe, on fait des sciences en faisant des calculs au lieu d'observer le réel. C'est cette révolution qui est à l'origine du divorce entre vérité et perception, et c'est ce divorce qui préoccupe énormément Hannah Arendt.
Le savant a été forcé, sous la contrainte des faits et des expériences, de renoncer à la perception sensorielle et de là au sens commun, grâce auquel nous coordonnons la perception de nos cinq sens en une conscience totale de la réalité. Il a aussi été forcé de renoncer au langage ordinaire, qui même dans ses raffinements conceptuels les plus sophistiqués, reste inextricablement lié au monde des sens et à notre sens commun. Pour le savant, l'homme n'est rien de plus qu'un observateur de l'univers en ses multiples manifestations. Le progrès de la science moderne a démontré avec beaucoup de force combien cet univers observé, l'infiniment petit non moins que l'infiniment grand, échappe non seulement à la grossièreté de la perception humaine, mais aussi aux instruments formidablement ingénieux construits pour son affinement. Les données auxquelles s'intéresse la recherche physique moderne apparaissent comme de mystérieux messagers du monde réel. Elles ne sont pas à proprement parler des phénomènes, des apparences, puisque nous ne les rencontrons nulle part, ni dans notre monde quotidien, ni dans le laboratoire. Si nous nous rendons compte de leur présence, c'est seulement parce qu'elles affectent de certaines façons nos instruments de mesure. Et cet effet, selon l'image parlante d'Eddington, peut avoir autant de ressemblance avec ce qu'elles sont en réalité qu'en a un numéro de téléphone avec son abonné.
À la question, croyez-vous que cette nature humaine qui pense peut résoudre notre grand problème ? Albert Einstein répond.
I believe nothing else can. Just as we use our reason to build a dam to hold a river in check, we must now build institutions to restrain the fears and suspicions and greed.
Je crois qu'elle seule peut le faire. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela. Mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre 1 million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant, sinon la société humaine disparaîtra peut-être à jamais dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible encore.
Michel Etchaninov, il est frappant d'entendre à la suite le texte d'Arendt qui met en garde justement contre cette scission trop grande entre l'homme, disons le citoyen ordinaire, qui parle un langage ordinaire, et le savant. Et ensuite Albert Einstein, c'était en 1949, qui met en garde aussi contre la possibilité, le danger que peut représenter la science si on ne met pas en place un dispositif de contrôle des usages, des inventions techniques, eh bien peut nuire à l'homme lui-même. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'au-delà d'une préoccupation commune qui est bien compréhensible à l'époque, c'est que Arendt elle-même montre bien que cette opposition, il ne faut pas la plaquer sur celle entre l'être et l'apparaître. C'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas comme une vérité à laquelle accéderaient les scientifiques quand le reste du monde serait complètement sensible et donc fuyant. Philosophiquement, pour elle, l'enjeu se situe ailleurs que dans cette scission.
C'est-à-dire que cette scission reste le point de départ, qu'ensuite qui est ensuite une sorte d'espace qu'on peut essayer de combler. Là, ce qui est intéressant quand on écoute Einstein, c'est qu'on se rend compte que ce sont peut-être souvent les scientifiques les plus engagés dans des révolutions qui vont tout changer au XXe siècle et notamment donner naissance au nucléaire, qui sont eux-mêmes les plus engagés contre les effets de leurs propres découvertes et leurs propres recherches. C'est-à-dire qu'il y a comme une distorsion entre le travail du savant qui va suivre son devoir de recherche d'un monde qui ne correspond plus au réel et la peur qui s'empare du savant devant les conséquences de ses actes, de ses recherches plutôt. Alors, il faut le voir dans ce que dit le premier extrait d'Arendt, enfin dans celui que vous venez de lire, qui est intéressant. Elle dit qu'en fait, quand elle examine la science du début du XXe siècle, elle pense évidemment aux recherches sur les particules élémentaires, les particules subatomiques. C'est que, en fait, on ne voit plus ce sur quoi on travaille. On ne voit pas les particules. Et même, elle dit même qu'on ne les voit plus grâce à des engins d'observation qui grossiraient la matière. En fait, ce que nous envoie le réel scientifique, c'est-à-dire ces particules élémentaires en interaction, ce sont comme des messages mystérieux.
Elle cite Planck, c'est une citation de Max Planck, quand elle dit « les mystérieux messagers du monde réel ».
C'est-à-dire qu'elle se rend compte que même pour le scientifique, la vérité objective de la science qui va donner lieu à des révolutions techniques n'est plus observable. Elle n'est plus donnée ni au sens, ni même à la compréhension. Elle devient comme une sorte de message à la fois totalement éloigné, totalement incompréhensible et pourtant totalement vrai. C'est sur cette brèche que se situe Hannah Arendt et qu'elle creuse dans ce texte. Elle creuse cette brèche parce que cette brèche, c'est tout de même le divorce entre apparence et vérité, entre perception sensible et vérité scientifique. Et finalement, c'est cette brèche qui pose problème puisque finalement on vit dans un monde déterminé par des vérités auxquelles on n'a plus accès.
Mais souscrit-elle à cette brèche? C'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, quel est son problème? Est-ce de constater que la science nomme la vérité à un endroit qui est tout à fait distinct du monde sensible, ce qui s'oppose à ce que Arendt pense, ou est-ce tout simplement que la science va nous donner l'illusion que vérité il y a, qu'elle soit du côté des apparences ou au contraire de la science elle-même, et ce qui reconduit une vision binaire de la réalité à laquelle ne souscrit pas Anna Arendt?
Non, bien sûr que non. C'est ça. Évidemment, pour elle, cette scission est dramatique, parce que comme elle le dit dans l'extrait qu'on a lu, elle fait disparaître les phénomènes. Or, les phénomènes, notamment le phénomène d'autrui à qui je suis en train de parler, que je regarde et à qui je peux parler, polémiquer, c'est ce qui fait, ce qui rend possible l'action, ce qui rend possible l'action politique et la conduite éthique. Donc évidemment, se débarrasser des phénomènes, c'est dramatique. Donc Hannah Arendt est très angoissée par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'elle essaye, en historienne de la philosophie, à la suite d'Alexandre Coiré, ce grand historien de la révolution galiléenne, de dire qu'il s'est passé quelque chose de fondamental qui a commencé au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on a décidé que le phénomène ne nous donnait plus accès à la vérité, qu'il fallait la rechercher ailleurs, dans l'outil mathématique, dans la perfection des mathématiques. Et elle se rend compte qu'aujourd'hui, au XXe siècle, cette révolution méthodologique commençait à donner des effets réels. Des effets, d'abord, au niveau tout simplement technologique, hein, la naissance du nucléaire, dont elle est contemporaine, la révolution des transports, la conquête de l'espace. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que ce sont, 3 siècles après, les conséquences d'une révolution méthodologique. Et elle se rend compte que c'est profondément inquiétant pour l'avenir de l'humanité. Elle est pessimiste. Elle est pessimiste sur ce qui va arriver à un monde scindé entre une vérité phénoménale dans laquelle tout de même nous jouons la majeure partie de nos vies et une vérité scientifique qui montre son efficacité, son effectivité, puisqu'on en fait des machines, des moyens de transport et même des armes de destruction massive, mais qui pourtant est inaccessible au sens.
Est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher sa vision un peu caricaturale quand même de la science de l'époque, qui, surtout à l'époque, est bien loin d'être détentrice d'une vérité unique et absolue? C'est quand même le moment, avec l'apparition de la mécanique quantique notamment, le principe d'incertitude d'Heisenberg qu'elle cite elle-même dans son article, remet en question ce déterminisme scientifique qui prétend proposer une vision unifiée de l'univers orientée vers un seul but.
Alors effectivement, je pense que Hannah Arendt ici a... on pourrait dire un temps de retard sur la vision qu'elle a des sciences. C'est-à-dire que elle cite beaucoup de physiciens quantiques, Niels Bohr, Heisenberg, etc. Elle les cite, mais elle les voit comme des continuateurs du galiléisme, dans le sens où pour elle, le fait qu'on ne puisse avoir une définition absolument nette et claire du réel, quand on dit par exemple que la lumière est à la fois onde et corpuscule, comme le disent les mécaniciens quantiques, eh bien pour elle, c'est une preuve supplémentaire du divorce entre vérité et réalité. Ce qu'elle ne voit pas en revanche, c'est que la mécanique quantique, effectivement, introduit de l'imprévisibilité, de l'indétermination, de l'incertitude dans la science. Ce qu'elle ne voit pas non plus, et ce qui est fondamental, c'est qu'avec la mécanique quantique, le statut d'extraterritorialité du savant est terminé. Parce que, comme on le sait avec justement Heisenberg, c'est l'outil d'observation qui va modifier le comportement de l'objet modifié. C'est pour ça qu'il est difficile de connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule. C'est-à-dire que la mécanique quantique montre que justement, on ne peut plus se retirer loin de la Terre, loin de la matière sur ce point d'Archimède, puisqu'en fait, notre observation interagit avec l'objet observé. Donc ce que Arendt ne voit pas, à mon avis, ce que Bachelard pourtant avait vu dès le début du XXe siècle, c'est que la science, au début du XXe siècle, est en train de muter, que le modèle déterministe du XVIIIe, XIXe siècle change, que la science va devenir de plus en plus consciente de l'intrication de l'observateur et de l'observé, de plus en plus consciente de l'aléa qui existe dans les mouvements de la matière, de l'indétermination qui participe à l'univers. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Hannah Arendt décrit les conséquences de la révolution galiléenne au XXe siècle, et elle s'en inquiète, mais elle ne voit peut-être pas forcément que la science, au même moment, est en train de changer.
Thank you. nightmare about the atomic bomb. When you hear the story, then I know you're gonna wanna run. You're gonna run, run, run back where you come from. I just heard from a little bird they're gonna drop the atomic bomb. Talk about a flying saucer streaking through the sky. I'm gonna stop to find out if they're stopping or going by. I'm gonna run, run, run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. Oh, run, run, run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. They say stand still like a soldier until the threat is gone. And if they drop the atomic bomb, it's gonna fall down in the pond. But me, I'm gonna be moving, make room I wanna pass. I'm gonna show that old spaceship an awful lot of class. I'm gonna run, run.
Le cauchemar atomique par The Table Brothers of Bermuda. Vous écoutez France Culture, le nouveau champ de la connaissance. Il est 10h31. C'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à Hannah Arendt en partenariat avec Philosophie Magazine, qui propose ce mois-ci un hors-série consacré à Hannah Arendt. Philosophie Magazine, dont le rédacteur en chef est mon invité Michel Elchaninov, à qui l'on doit un article dans ce hors-série consacré au dernier chapitre de la crise de la culture d'Hannah Arendt sur la conquête de l'espace et la dimension de l'homme. Michel Elchaninov, qui est aussi par ailleurs auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine, qui était paru l'an dernier aux éditions Actes Sud.
Run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. Hey! I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. Oh, run, run, run like a son of a gun. I don't know where I'm going to go, but I'm really going to run. Run, 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 run. Run, run,
run. Wait for me, wait for me, man.
Moonraker 1 on preset launch program, minus 2 minutes. Retract crew access on.
Quel est très exactement votre projet? Et pourquoi ces orchidées?
Le fléau d'une civilisation. Ce n'est ni la guerre ni la peste qui ont détruit la race qui bâtit la grande cité qui nous entoure. C'est la vénération qu'elle portait à cette belle fleur.
Parce qu'un contact trop prolongé avec son pollen cause la stérilité.
Exact, monsieur Bond. Et comme vous l'avez découvert, j'ai renchéri sur la stérilité. Ces mêmes graines donnent maintenant la mort. Mais pas à la faune ni à la flore. Il faut savoir préserver la pyramide écologique.
Programme de lancement Moonraker, nous commençons.
Minus 20 seconds.
SRB, gimbal profile.
Ici, au sein immaculé du firmament, je vais créer une nouvelle super race. Une race de spécimens physiquement parfaits. Vous avez été choisis pour en être les géniteurs. Tels des dieux, vos fils vont pouvoir retourner sur la Terre et s'y reproduire à votre image. D'abord, un collier de mort autour de la Terre. 50 sphères lâchant leur gaz neurotrope toxique, capables chacune de tuer 100 millions de gens. La race humaine telle que vous la connaissez aura cessé toute existence. Ensuite, renaissance et nouveau monde. Mise à feu.
Et voilà le lien entre la conquête de l'espace et la dimension politique du texte d'Arendt et Michel Elchaninov. C'est James Bond qui nous permet de faire cette transition dans Moonraker, hein, où James Bond enquête sur la disparition d'une navette spatiale américaine nommée Moonraker. Et c'est Sir Hugo Drax, interprété par le jeune Michael Lonsdale, qui est le responsable de sa disparition, qui va lui annoncer qu'il va détruire toute vie humaine et recréer une forme de super race. Ce qui illustre bien l'idée que plus l'homme prend de la distance par rapport à la Terre, il en prend par rapport à lui-même et se situe dans un régime de vérité complètement coupé de tout bon sens.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux utopies qui se mêlent ici. C'est d'abord regarder le pauvre humain rester sur sa terre comme un être déjà superflu, déjà trop fragile et trop faible pour continuer la conquête de l'espace. Et puis la deuxième utopie, c'est de recréer par l'eugénisme une race d'hommes nouveaux qui peut quitter la Terre, qui peut aller vivre ailleurs. Enfin, c'est une hypothèse qui commence vraiment à se développer à cette époque, dans les années 60, et éventuellement revenir coloniser la Terre après sa destruction. Donc on est dans ce mélange intéressant de science-fiction, mais tout à fait passionnante et cohérente, et puis de pensée politique où Hannah Arendt se demande quels sont effectivement les effets politiques et éthiques du fait de regarder la Terre et l'homme de très loin.
Et elle va plus loin parce que pour elle, justement, le fait de prendre autant de distance par rapport à la Terre va avoir des conséquences, disons, quasiment théoriques qui font que l'homme, coupé de son expérience sensible, de son expérience, disons même, réelle, ne pourra plus mesurer l'écart qui le sépare d'un discours qui, lui, peut être à tendance fascisante.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle décrivait...
C'est juste qu'il y a un paradigme ici de la conquête de l'espace, un paradigme qu'elle applique au domaine politique. C'est ça qui est passionnant.
Tout à fait. En fait, elle l'avait même appliqué avant de l'appliquer au domaine de l'espace, puisqu'elle en parle dans sa trilogie sur le totalitarisme, où elle explique qu'en fait, le fait de regarder l'homme de l'extérieur, c'est ce qui permet au totalitarisme, finalement, de s'exercer. Alors, c'est assez peu relevé par les commentateurs, c'est très troublant d'ailleurs, de voir à quel point, quand elle décrit le système totalitaire, Hannah Arendt utilise les mots dont elle usera pour parler de la révolution galiléenne, de ce dont on vient de discuter, c'est-à-dire de l'aspect scientifique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le totalitarisme ? C'est construire une théorie, elle peut être totalement folle, mais elle est pseudo-scientifique, elle est scientiste, ça peut être par exemple la théorie de la race, chez les nazis, ça peut être la théorie de la lutte des classes et de la victoire de l'homme nouveau chez les soviétiques. Donc une théorie pseudo-scientifique, et ensuite de l'appliquer. Alors on est dans un écart total, évidemment, entre une vérité toute théorique, mais dite absolument parfaite, et le sens commun. C'est-à-dire que Hannah Arendt nous dit, en Allemagne, vous avez un voisin juif depuis 30 ans, c'est votre meilleur ami, mais la théorie vous explique que cet homme est voué à la disparition. Et donc, il disparaît, et ce n'est que l'application d'une théorie. En Union soviétique, votre père, évidemment, est quelqu'un que vous adorez, mais c'est un koulak, c'est un paysan enrichi. Eh bien, le devoir du petit citoyen soviétique, c'est un exemple que cite souvent Hannah Arendt, c'est de le dénoncer. C'est-à-dire que la vie perceptive, mais évidemment, c'est pour ça que j'évoque ces exemples, éthique et affective, doit être brisée, annihilée par la toute-puissance d'une théorie. C'est ce que dit Hannah Arendt quand elle dit que le totalitarisme, c'est le passage du « tout est permis » du nihilisme d'Ivan Karamazov au « tout est possible ». On propose une théorie complètement folle, mais qui a toutes les apparences de la science, et on va l'appliquer. Et ce qu'elle dit par la suite, c'est que le camp de concentration, qu'est-ce que c'est ? C'est le laboratoire à ciel ouvert qui vise à démontrer la véracité, évidemment fantasmatique et monstrueuse, d'une théorie inventée par des idéologues nazis et soviétiques.
Écoutons-la définir l'essence du totalitarisme, c'était en 1974 devant la caméra de Roger Herrera.
Je voudrais commencer par faire certaines distinctions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Tout d'abord, une dictature totalitaire n'est ni une simple dictature, ni une simple tyrannie. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnue auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies.
And that is the role of the innocent.
Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté.
You were given the role according to the dynamism of history.
La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non.
And this, of course, is the quintessential sign of totalitarianism.
C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme.
La domination de l'homme par l'homme, comme l'essence du totalitarisme, est-ce ce que l'on retrouve dans le phénomène, l'événement de la conquête spatiale, Michel Antoninov?
La logique sous-jacente est la même. Dans ce texte, Hannah Arendt nous dit que dans le totalitarisme, on ne tue pas les opposants, on tue des citoyens lambda, qui peuvent d'ailleurs être totalement d'accord avec le régime en place. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où l'important est l'effectuation, l'expérimentation de la théorie. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ainsi qu'elle explique un point extrêmement controversé de ces théories, suivant laquelle les victimes elles-mêmes ont parfois participé à leur propre destruction. C'est un point évidemment très très sensible qu'elle touche au moment du procès Eichmann. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est quand on est dans un cadre, disons, pseudo-galiléen, disons dans un cadre où le nazisme ou le stalinisme ne sont pas des oppressions, des dictatures, mais des sciences en action, des théories scientifiques en action, évidemment fausses. Eh bien, elle dit, l'élimination des victimes, c'est pas un acte politique. C'est un acte, tout simplement, de vérification de la théorie. Donc, tout affect doit être supprimé de l'élimination des victimes, à la fois du côté des bourreaux, qui ne se voient que comme les exécuteurs, finalement, des laborantins de la théorie, mais également du point de vue des victimes, qui ne se voient pas comme des êtres humains sacrifiés par un régime oppressif, mais qui se voient comme des êtres en trop, parce que la théorie à laquelle, d'après Hannah Arendt, ils adhèrent peut-être aussi, implique leur disparition. Donc en fait, cette manière de prendre le totalitarisme comme une sorte d'incarnation monstrueuse de la logique scientifique galiléenne permet d'expliquer beaucoup de points qui différencient le totalitarisme d'une tyrannie, d'une dictature.
Certes, mais c'est là aussi où ça pose problème, vous dites, parce que on posait la question de savoir si Arendt était anti-scientiste ou non. Suggérer que les idéologies totalitaires se sont construites sur le modèle de la science moderne, c'est quand même une accusation extrêmement forte à l'égard de la science moderne.
Alors elle l'assume, elle dit toutes les idéologies totalitaires sont scientistes. Ouais. Et ça, elle d'ailleurs, quand elle cherche quelles sont les origines du totalitarisme, elle explique bien que quand on crée des hypothèses et qu'on dit que celles sont scientifiques, bon, on a déjà un pied dans le totalitarisme. C'est-à-dire que il y a un autre texte dans La crise de la culture qui est très beau sur le concept d'histoire. L'histoire, pour Hannah Arendt, c'est la somme des actions et des souffrances humaines. L'histoire est imprévisible par essence parce qu'elle est l'interaction, justement, de ces subjectivités en action que sont les hommes. Eh bien, quand on dit que l'histoire, ce n'est pas justement cette somme imprévisible d'actions et de souffrances et de paroles, mais que c'est un processus, que dans une histoire, il y a des moyens, il y a des fins, que l'histoire doit aboutir à sa fin, c'est-à-dire à son achèvement avec la lutte des classes ou la fin de la lutte des classes ou sa réalisation, eh bien, on est déjà dans un schéma scientiste. Et donc, Hannah Arendt nous dit que quand on pense l'homme, son histoire, sa société dans un schéma scientiste, eh ben on est déjà un peu totalitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut étendre cette vision inhumaine, finalement, de la science à toute la société. Alors, évidemment, on peut ne pas être d'accord. Je pense personnellement que le galiléisme est beaucoup plus complexe que ce qu'a voulu en faire Hannah Arendt. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de Husserl et d'Alexandre Coiré, elle veut aller loin dans l'histoire pour repérer quels sont les germes possibles de ce qui a donné naissance à cette monstruosité dont elle est évidemment victime et témoin, le totalitarisme. Et d'après elle, le divorce de la philosophie et de la science par rapport au réel sont en partie responsables de ce phénomène totalitaire.
Et la philosophie également.
Dans le sens où Descartes considère que les sens nous trompent, qu'il faut, pour découvrir la vérité, refuser tout témoignage des sens, qu'il faut construire une mathésis universalis qui permette de reconstruire tout le savoir, c'est une position métaphysique, c'est une position philosophique de refus du réel qui est porteuse de danger, qui évidemment a permis l'expansion extraordinaire de l'Occident du XVIIe au XXe siècle, mais qui pour Hannah Arendt doit être au moins corrigée. C'est ce que disait Husserl dans les années 30. La science européenne s'est développée de manière extraordinaire, mais de manière unilatérale. Il faut réintroduire dans la science et la philosophie moderne le souci du réel, le souci de la perception, le souci du corps, le souci de notre ancrage terrestre à la Terre, le souci du passé, de ce qui est finalement, de ce qui nous vient du passé, le souci du rapport à autrui. C'est cette révolution philosophique et scientifique qu'appellent de leur vœu Husserl et Hannah Arendt, et qu'ils mettent en pratique. Hannah Arendt, en écrivant des livres de philosophie qui sont accessibles à des gens qui n'ont pas lu la phénoménologie de l'esprit trois fois, c'est-à-dire des livres de philosophie qui sont accessibles à un nombre plus grand que le public habituel, est quelqu'un qui, justement, essaie de montrer que la philosophie doit être sensible au réel, doit réintroduire l'aspect affectif, éthique et réel dans la théorie pour ne pas sombrer dans une forme de scientisme ou de fanatisme idéologique.
Voilà, ce qui est surprenant, c'est la vision assez caricaturale qu'elle donne à la suite effectivement de Husserl de la science, parce que finalement ce qu'il dénonce l'un et l'autre, c'est un esprit de système, c'est une certaine attitude intellectuelle à l'égard du monde, ce n'est pas la science en général. Et Arendt, qui est tellement attentive et sensible aux nuances conceptuelles, à la distinction conceptuelle en général, et qui tient à maintenir son activité de philosophe dans une période politique extrêmement houleuse, mais parce qu'elle y trouve la seule possibilité pour elle de s'engager, puisque l'action lui tient tant à cœur, ben c'est surprenant de voir qu'elle semble tomber dans cet écueil, parce qu'elle parle là quand même, dans cet article, de la science en général, et pas simplement d'une certaine utilisation de la science.
Alors c'est vrai qu'elle est... D'abord, elle veut repenser les grands mouvements de l'histoire. Donc elle se situe quand même dans une histoire qui est peut-être moins grandiose que celle d'Heidegger, qui nous remonte au présocratique, et qui nous fait remonter au présocratique, mais quand même là, qui nous ramène à Galilée, au XVIIe siècle. Donc elle essaie de montrer les grands processus, les grands mouvements de l'histoire. Et puis deuxièmement, elle est très inquiète sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que...
Ce qui lui fait forcer le trait, sans doute.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au même moment, son ex-mari Günther Anders écrit sur le nucléaire et sur le péril de destruction de l'humanité entière, qui devient réel au moment où elle est en train de travailler. Elle vient de vivre le totalitarisme qui a effectivement transformé les masses humaines en hordes meurtrières et qui a fait des millions de victimes au nom d'idéologies pseudo-scientifiques. C'est-à-dire qu'elle vit, elle écrit et elle travaille dans un contexte où cet esprit pseudo-scientifique en ce qui concerne le totalitarisme, ou l'esprit scientifique en ce qui concerne le nucléaire, est porteur d'énormes dangers. Donc c'est vrai qu'elle a tendance un peu à gauchir son discours vers un pessimisme. Elle a très peur, comme elle le dit, que bientôt on arrive à recréer le miracle de la vie. Et elle précise, d'habitude, ça s'était attribué aux dieux, mais l'homme est en train d'essayer de le faire. Elle a peur aussi de l'intelligence artificielle. Elle a peur du transhumanisme. Elle évoque souvent que pour l'instant, la seule limite qui nous reste, c'est la durée de la vie humaine. Mais peut-être qu'un jour, on arrivera à la dépasser. Bref, elle est assez inquiète de ce qui est en train de devenir la science. Et du coup, effectivement, ça ne lui permet pas de voir que la science est en train, de manière interne, de se transformer.
Et pour boucler avec le début de cette émission, on observait la Terre depuis la Lune, elle essaye de réinvestir la notion même de planète, de sa dimension de Terre, finalement. C'est le terme de Terre qui lui paraît important.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait de manière non réactionnaire. La Terre, dans les années 20, dans les années 30, est chez certains penseurs un thème réactionnaire, voire préfasciste. Carl Schmitt exalte la Terre à ce moment-là. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est de dire que notre rapport à la Terre n'est pas un retour à des origines mythiques contre la démocratie, contre la décadence. Non, notre rapport à la Terre, c'est un ancrage qui nous permet d'abord le rapport à autrui. C'est-à-dire que pour elle, notre attachement à la Terre en tant que sol est la condition d'une vie politique et éthique, c'est-à-dire du rapport à autrui, c'est-à-dire de parler le langage commun et de percevoir autrui de manière à la fois éthique et affective. Donc ce qui est intéressant avec Arendt, c'est que, comme d'habitude, elle est inclassable, elle nous parle de la Terre, elle nous fait un éloge de la Terre qui n'a absolument rien de réactionnaire.
Et pourtant, la Terre, contrairement à la planète, on ne peut pas danser dessus.
Chic planète, dansons dessus. Chic planète,
Un grand merci à vous, Michel Eltchaninov, d'être venu nous parler d'Arendt aujourd'hui.
Merci à vous.
Et de cet article donc auquel je renvoie les auditeurs, c'est le dernier, hein, le 8e de la crise de la culture sur la conquête de l'espace et la dimension de l'homme. Il tient une dizaine de pages et je pense que après cette émission, il sera limpide pour ceux d'entre vous qui voudront s'y plonger. Je renvoie également au hors-série de Philosophie Magazine, dont vous êtes le rédacteur en chef, Michel Eltchaninov, qui est consacré ce mois-ci à Hannah Arendt, La passion de comprendre. On y trouve des documents et des textes sur la banalité du mal, le totalitarisme, la transmission, le travail, l'autorité. Tout cela disponible en kiosque actuellement. Vous écoutez France Culture, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
Je m'appelle personne. Ceux qui portent en eux quelque chose de grand ne l'attachent pas à leur personne. Au contraire. Qu'est-ce qu'une personne ? Un nom, des besoins, des manies, des ridicules, des absences, quelqu'un qui se mouche, qui tousse, mange, ronfle, etc.
Qu'est-ce qu'une personne ? Se demande Paul Valéry dans ses mauvaises pensées. Eh bien, plein de choses, effectivement, communes, petitesse et misère inévitable, rien que des chaussettes et des maîtresses dont on se fiche, mais dont le biographe, seul, a le talent de tirer une grandeur. Alors, avec une telle mise en garde, faire une biographie de Paul Valéry, ce serait le trahir. Lui qui, comme on l'a entendu, déclarait que ce qu'il y a de grand ne s'attache jamais à une personne. Comme on l'a entendu, mais comme l'a aussi très bien entendu Benoît Peters, qui cite lui-même ce texte de Paul Valéry pour ouvrir ce qui ne sera donc pas une biographie. Car c'est plutôt un spécialiste de la bande dessinée en effet que Benoît Peters procède ici. Il n'est pas dans le nappé biographique, il est dans le détail d'un moment clé. La rencontre de Valéry avec Pierre-Louis, sa crise d'une nuit à Gênes en 1892, l'amour avec Catherine Pozzi. Et il est aussi dans la continuité d'un thème qui se glisse de tableau en tableau. Valéry parlait de grandeur, on pourrait parler d'absolu si l'on devait choisir un trait de sa vie. L'absolu de la forme parfaite, de l'idée claire et distincte, l'absolu qui embête par son inachèvement, l'absolu qui ennuie aussi car plus on pense, eh bien plus on pense comme il disait si bien. Ce que trace donc Peter, ce n'est pas la vie de Valéry, c'est mieux, c'est la vie d'une idée, celle qui permet d'exister, de tenir et même de tourner le dos à l'écriture. C'est le mouvement de l'esprit, tel le mouvement de la danse qu'il a si bien décrit, un pur mouvement qui ne mène qu'à lui-même, celui qu'on retrouve dans ses dizaines de cahiers. Et voilà donc son œuvre à Paul Valéry. Peters nous met sous les yeux ses dédains, ses refus et ses dégoûts. Voilà, je cite, ce chef-d'œuvre parfaitement beau, parfaitement conforme à l'impossibilité de le faire.
Et donc une biographie qui est disponible en poche.
Qui est disponible chez Flammarion et donc de Benoît Peters, Paul Valéry, Une vie.
Merci beaucoup Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la crise de la culture d'Hannah Arendt. Demain, ce sera Anne Dalsueux qui viendra vous parler de la crise de l'éducation. D'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture, page des nouveaux chemins, pour réécouter l'émission, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, ainsi que sur nos pages Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. Et puis j'ai grand plaisir à annoncer le prochain forum qui se tiendra au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Après la philosophie la semaine dernière, vous avez pu entendre la retransmission de ces émissions toute la semaine dernière, eh bien ce sera les sciences. Quatrième saison des forums France Culture dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, samedi 13 février de 10h à 18h. L'entrée est libre, mais sur inscription obligatoire. Toutes les informations en ligne sur le site de France Culture.